Vous écoutez
RMC. RMC, Roten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Ça m'énerve ce jingle.
Regarde-le. En fait, prends
le but de Jérôme.
Prends le jingle et mets-toi l'image avec. Il est fabuleux.
si à ton époque, Captain, RMC existait, t'aurais la même chose.
Non, un but comme ça, il a jamais mis. Je te promets qu'il a jamais mis.
Tu vois, encore RMC existait. Ça s'appelait Radio Monte Carlo.
Bien sûr, mais on parle
de l'extase d'un journaliste.
Autant pour moi, je retiens qu'avant eux, si on avait les archives de l'époque de Radio Monte Carlo, on le sortirait aussi.
Ce qu'il faut réussir à faire, et c'est une performance de la part de Pierre Dorian. Est-ce qu'un journaliste qui commentait un de tes matchs ou un de tes buts s'est enthousiasmé autant que Pierre Dorian sur mon but?
Non, parce que moi, il avait l'habitude de me voir marquer des buts.
Je suis désolé, j'en ai pas vu un de ta part. Pourtant, j'en ai vu quelques-uns.
On y va. La course à l'Europe, on va en parler avec Edouard G pour Lyon et Clément Brossard pour Monaco. Bonsoir, messieurs.
Il est fatigué, Edouard, il est partout. Salut, Edouard.
Il est partout, il a des grosses infos, Edouard.
Ah, bah oui.
La course au barrage qui concerne beaucoup de clubs de l'Ouest, Lorient, Brest, Nantes, représenté par Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Bonsoir messieurs.
Salut Pierre-Yves.
Bordeaux également, qui est mathématiquement concerné, mais bon, a priori Bordeaux
est sauvé. On l'a pris pour le faire kiffer, le faire plaisir.
Et on voulait voir son état malgré la réouverture des terrasses. Nicolas Paul Orti, salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. Vous savez où je suis? Je suis dans un stade avec du public, Jean-Louis.
Et oui, match en retard de la 21e journée du top 14.
Avec du public, il y a 1000 personnes. Depuis mercredi, les salles et les stades sont ouverts. La jauge a été fixée à 1000 personnes et franchement, y a des bandas, il y a quelques supporters qui sont là et ça fait vraiment du bien. Il y a 14-0 pour l'UBB.
Très bien, merci Nico.
C'est contre Agen ?
Ouais.
Agen, c'est une belle équipe.
Hein. Agen, 23 matchs, 23 défaites, 2 petits points de bonus.
Ouais, très bien.
Même les Girondins ont fait mieux, je crois.
Ouais, t'énerve pas trop non plus. Allez, Bordeaux, on en parlera tout à l'heure, mais on va commencer par la course à l'Europe, messieurs. Monaco, peut-il tout perdre en une semaine? On va en parler avec Clément. Mais d'abord, Lyon. Edouard, t'as quelques infos à nous donner déjà sur l'avenir?
Oui, sur l'avenir, parce que donc ce match de dimanche, c'est un match spécial hein, pour la der de quelques acteurs. Alors il y a trois catégories. Il y a les peut-être, c'est la der. Donc dans cette catégorie, je mets Oussem Aouar qui en conférence de presse aujourd'hui a été plutôt normand. Oui, peut-être que c'est le dernier match, peut-être que non. Il est focus sur ce match. D'autres qui devraient partir, Djamel Benlamri, Maxwell Cornet ou Karl Toko Ekambi. Voilà pour les potentiels. Peut-être c'est la der ce dimanche face à Nice. Il y a sûrement c'est la der. C'est pour Fils de paille, hein. Il l'a dit ce matin d'ailleurs à nos confrères de l'équipe, même si Rudy Garcia en conférence de presse a évoqué pourquoi pas une prolongation de contrat. Et puis voilà la catégorie des normalement c'est l'ADER, concerne bien évidemment le staff, hein, parce que là ça va être un chamboule tout annoncé. On va dire que c'est le sens de l'histoire pour un staff qui est tout en fin de contrat. Alors sauf retournement de situation, Rudy Garcia ne sera plus là l'an prochain. Aujourd'hui il était toujours d'humeur badine, hein. Lundi par exemple, il nous a dit le lendemain de ce match, je serai dans un repas dans le Beaujolais. Son remplaçant, ce ne sera pas Juninho. C'était une piste interne dont on vous détaillait sur RMC les tenants et les aboutissants ces dernières heures. Eh bien, depuis quelques heures, cette piste a été totalement abandonnée par les décideurs et par le directeur sportif Juninho lui-même. Quid donc du remplaçant alors? Mes radars m'indiquent toujours la même chose que j'ai depuis l'automne, et j'en reste à ce que je dis depuis l'automne, même s'il y a eu quelques soubresauts et des appels d'autres clubs italien ou britannique, un nom clignote pour moi depuis longtemps. À la case 30e entraîneur de l'OL, c'est Christophe Galtier, le très 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 désiré adjoint du doublé de 2008 qui coche toutes les cases donc du futur. Alors après, vous allez me dire, mes radars peuvent aussi me détourner de la vérité, mais bon, je les ai encore vérifiés dernièrement.
Ça pourrait être officialisé la semaine prochaine. Ça pourrait s'accélérer.
Ça pourrait être
officiel.
Voilà. Alors, bien évidemment, ça va aussi dépendre de cette dernière journée face à Nice, parce qu'il faut aussi qu'il y ait quand même la Ligue des Champions.
Bien sûr, on y reviendra.
Nice concerné par Galtier aussi, hein, entre temps.
Ça fait partie des pistes dont on a entendu parler pour Galtier. Jérôme, tout ce que vient de nous raconter Edouard, ça fait beaucoup de choses hors terrain. à gérer pour Lyon avant ce match contre Nice. Est-ce que ça peut peser sur un dernier match de championnat?
Non, je pense pas. Je pense que là, ils sont focalisés sur l'envie d'avoir tout gagné sur les derniers matchs depuis leur victoire à Monaco. Ils ont eu le sentiment qu'il y a eu un vrai tournant là-bas. Ils ont eu raison parce que ça les a relancés dans la course à la troisième place, à la Ligue des Champions. Et qu'ils se sont mis en mode, en état d'esprit de commando, qu'on ne ressentait pas avant ce match de Monaco. Mais vu les circonstances du match, comment ça s'est passé, les bruits qu'il y a eu aussi avant ce match de Monaco, la rivalité récente qui s'est créée encore entre ces deux clubs, je trouve que Lyon a très bien géré tout ça. Et bon, logiquement, ils ont gagné tous leurs matchs depuis. Je les vois pas du tout sauter, du moins faire un faux pas sur ce dernier match. Du moins là, ça serait je tomberais des nus.
Le faux pas, on le voit peut-être plus à Monaco. Monaco qui est à Lens.
Ils espèrent ça, les Lyonnais. Et encore une fois, les avenirs de chacun, du staff. De toute façon, je pense que les joueurs, le club, les supporters se sont fait à l'idée de ne plus avoir Rudy Garcia sur le banc de touche depuis un certain temps. Ça, c'est pas une nouveauté pour eux. Après, les joueurs, comme disait Edouard, on entend Oussem Aouar qui a un réponse un peu à la Normande. Écoute, de toute façon, lui, il va attendre les offres. Oussem Aouar, s'il y a une belle offre, une offre intéressante pour lui, il va se barrer, dans tous les cas. Et s'il n'en a pas, parce que le contexte, sa saison aussi, qui ne part pas forcément pour lui, fait que peut-être qu'il va être obligé de rester à Lyon.
Oui, c'est possible. Alors donc, Lyon va espérer un faux pas de Monaco à Lens, déplacement compliqué pour les Monégasques, avec surtout donc cette menace de tout perdre en une semaine après la Coupe de France, hein, Clément.
Ouais, en l'espace de 5 jours même. Alors il y a eu beaucoup de tristesse évidemment après la défaite en finale de Coupe de France. Kovac dans le vestiaire a expliqué à ses hommes qu'ils pouvaient être fiers du parcours réalisé, qu'ils avaient le droit d'être déçus, qu'il fallait vite relever la tête pour cette dernière finale dimanche à Lens. Alors Paris a eu un jour de repos après la finale, pas Monaco, une matinée seulement. Ils étaient de retour à 4h30 du matin en principauté et à 17h hier ils étaient sur le terrain. Aujourd'hui l'entraînement prévu ce matin même a été déplacé à 7 après-midi. On vous disait depuis quelques semaines qu'on sentait ces Monégasques un peu un peu émoussé. Kevin Folland nous l'a même avoué après la finale de Coupe de France. Et pourtant, Nico Kovac, cet après-midi, nous a assuré que les datas dont vous raffolez, messieurs, évidemment, ces célèbres chiffres statistiques, ne montraient aucun signe de baisse de régime ces derniers jours et que ces joueurs étaient prêts pour ce dernier rendez-vous de la saison. Il y a eu pas mal de sourires hier dans la bulle de performance avec la convocation de nombreux joueurs en équipe nationale. Tchouaméni, Fofana, Badiachil avec les espoirs, Folland avec la Mannschaft notamment. Ça a aussi atténué la frustration. Maintenant, forcément, chuter du podium à l'ultime journée, ça serait très dur à vivre. Alors Kovac lui préfère, comme toujours, relativiser. Il nous a dit qu'il aurait un peu de mal à comprendre la déception des supporters si jamais il venait à terminer quatrième. Il a expliqué par ses mots, on est venu à Monaco pour replacer ce club en Europe. On l'a fait, on est des compétiteurs, on jouera à fond pour terminer troisième. Mais si on doit jouer l'Europa League, eh bien ce sera déjà mieux que la saison dernière. Donc comme d'habitude, on évite tout discours de pression sur le rocher.
Capitaine, tu les vois se fatiguer les Monégasques?
Oui, un peu fatigué, déçu, oui, tu perds une finale et puis une finale où tu n'as quasiment pas existé, ça commence et tu perds un match important contre Lyon. La dynamique n'est pas favorable au Monégasque. Je pense quand même qu'ils rencontrent une équipe qui est guère plus fringante qu'elle. Les Lensois doivent rester sur trois défaites consécutives. Et puis pas des défaites avec le dos de la cuillère, quoi. Ils en ont,
quand tu penses, surtout la dernière.
Quand tu penses qu'ils en ont pris trois du côté de Bordeaux, ça commence à faire un petit peu peur. Donc, je pense qu'ils ont une belle carte à jouer. Je mettrai quand même une petite pièce sur Monaco.
D'accord, tu les vois quand même tenir.
Je les vois. Monaco, on a du mal à imaginer que Monaco s'écroule sur ce dernier match. Alors même s'il faut se remettre d'une déception de perdre la finale, et c'est pour ça que la semaine dernière j'avais eu un petit coup de gueule sur cet emplacement de finale, parce que je trouve que c'est inadmissible de l'avoir placé.
Pas uniquement pour Monaco, pour l'ensemble du football français, ridicule.
Je parlais de Monaco, mais même pour Paris, les deux finalistes, c'est quand t'as des objectifs très élevés aussi en championnat, tu peux pas mettre ce match-là parce que tu sais qu'en cas de victoire,
tu peux le mettre si tu n'as aucun respect pour les footballeurs et pour la Coupe de France.
Quand on voit le spectacle, ça t'a donné raison.
Alors on va pas refaire ce débat, si vous le permettez. On va continuer de distiller les
informations. Excuse-moi.
Non, mais vous avez été excellent sur ce débat. J'ai écouté, franchement, très bonne prise de position.
Non, mais vu que t'avais pas été là, je voulais remettre une couche.
Ah, j'ai écouté en podcast, j'ai trouvé ça génial. Voilà, je vous le fais la nuit là quand je dors. Bon, le tour des stades, on y va. Quatre infos, et vous me dites ce que vous retenez. Bref, Brest, adversaire du PSG dans la course au titre. Il y a une ambiance tendue à Brest, Pierre-Yves.
Ah bah oui, forcément, hein, quand vous êtes sur une série comme celle des Brestois, c'est-à-dire une victoire sur 9 matchs seulement, il y a un peu de tension. On voit l'ogre parisien arriver. Résultat, eh bien, tous les salariés étaient ce matin à 10h, avant le début de la séance, autour du terrain pour encourager l'équipe. C'est du jamais vu, hein, du côté de Brest. Tout le monde était sorti pour soutenir.
Très mauvais signe.
Eh, c'est vrai que c'est pas forcément. Ça veut dire qu'il faut que.
J'adore
tout
ça.
Le monde soit.
J'adore
ça sent l'attention. Très mauvais signe. Hein, oui. On verra. On verra dimanche si ça a porté ou pas.
Info mercato peut-être, mais en tout cas Koscielny hésite à Bordeaux. Nicolas Paul Orsi.
Oui,
Bordeaux
Koscielny, qui est à Reims. Koscielny qui est blessé hein, depuis plusieurs semaines, touché au tendon d'Achille. Il sera peut-être là contre Reims ce dimanche. Et c'est vrai qu'il a donné quelques indications sur la suite de sa carrière. Alors il lui reste une année de contrat, mais il nous a dit moi je me vois joueur la saison prochaine. Mais par contre, si c'est pour repartir dans une saison galère comme celle-là, c'est pas possible. Donc voilà, on était sur un Koscielny qui a mis son avenir un petit peu en pointillé, même s'il se sent quand même encore dans le costume d'un joueur.
On revient sur les infos compo d'équipe dans la course à la Ligue des Champions. Monaco à Lens, Clément Brossard.
Ouais, la saison se termine et l'infirmerie se vide pour Monaco qui aurait bien aimé retrouver ses joueurs un peu plus tôt. Mais Stefan Jovetic a joué quelques minutes en Coupe de France. Il sera disponible pour Lens. De même pour Ben Yedder, sorti en boitant mercredi, touché à la cuisse, il va mieux. En revanche, Sofiane Diop n'est pas encore à 100% après sa blessure à la cheville. Donc le staff Monégas ne devrait pas prendre de risque et donc ne pas le sélectionner pour ce déplacement à Lens. Ce sera a priori le seul absent dimanche.
Lyon-Nice, info compo, Edouard côté lyonnais.
Un seul absent, Tino Kadewere, opéré cette semaine. Pas de suspendu. On devrait retrouver l'équipe de Nîmes avec peut-être deux incertitudes. Cornet ou Deschilio pour compléter la défense. Et puis Cherki à la place de Karl Toko et Cambi. Juste un écart entre la troisième et la quatrième place en termes de millions d'euros. L'euro, la Ligue des Champions rapporte à peu près 73 millions d'euros pour l'OL. Et une année en Europa League, c'est à peine 15 millions d'euros. Donc ce match va coûter bien cher.
Merci
dimanche soir.
Merci Edouard. Dans un instant, la course au barrage. Qui va terminer 18e? Nantes a-t-il fait le plus dur? L'ambiance est-elle désormais apaisée à Bordeaux puisque le maintien est quasiment acquis? C'est la suite du Multiplex Ligue 1 dans une seconde dans Roten Régal.
RMC
18h-20h
Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h18 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec moi, avec tous les correspondants. On continue le Multiplex Ligue 1, Jean-Louis.
Exactement. Edouard G, Clément Brossard, Pierre-Yves Leroux et Nicolas Paul Orsi sont avec nous. On va aller en bas de tableau pour continuer à présenter la dernière journée de Ligue 1. Juste avant, je vous donne quand même une info qui concerne un club déjà relégué en Ligue 2, c'est le Nîmes Olympique. Donc, Rani Assaf, le propriétaire, a informé les salariés aujourd'hui de son désengagement du club, la faute au conflit qui l'opposait à l'association concernant le centre de formation qu'il voulait fermer. Du coup, les Nîmois vont devoir retrouver un repreneur et il y a une menace de dépôt de bilan autour du club. Donc voilà, à voir les conséquences évidemment de tout ça.
Et oui. Une de plus, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça à Nîmes en plus.
Ouais.
Donc c'est triste pour ce club qui a une place forte quand même dans le paysage du football français, qui a un bassin quand même qui est très basé sur le foot, du moins voilà, il y a une ambiance spéciale dans, c'est un vrai club de football Nîmes, le Nîmes Olympique, donc forcément on est triste pour les prochaines semaines des Nîmois.
Exactement. Alors eux vont se battre donc pour ne pas descendre, ou du moins pour l'instant pour ne pas disputer le barrage et terminer à la 18e place. Je vous rappelle la situation, donc Nantes est 18e, occupe cette place de barragiste, voilà, avec 40 points.
Portez les calculettes.
Exactement. Nantes reçoit Montpellier qui n'a plus rien à jouer. Au-dessus de Nantes se trouve Lorient qui compte 41 points, tout comme Brest et Strasbourg, donc trois équipes en 41 points, en sachant donc que Strasbourg et Lorient s'affrontent.
Ça pue le 0-0, ça.
C'est possible.
Hein, d'autant qu'il peut y avoir un arrangement, là.
Oui. D'autant que Brest donc, joue le PSG. Peu de chances que Brest s'impose. Et dans ces cas-là, le nul entre Strasbourg et Lorient
sauve les deux.
Sauve les deux.
Et voilà. On voit Brest au barrage si Nantes s'impose.
Exactement. Et un peu plus haut, donc, se trouve Bordeaux avec 42 points. Donc, pour que Bordeaux n'est pas sauvé. Hein. Bordeaux peut encore finir en barrage. Il faut perdre par 3 buts d'écart. Imaginez le nul entre Strasbourg et Lorient. Ouais. Imaginez que Brest prenne un point.
Derrière,
ouais. Et bien résumé, Nico.
C'est exactement ça.
Très bien, je te remercie.
Tu es parfait.
Comme ça, tu peux suivre le rugby tranquille.
Alors, il vient que pour les primes de match, lui. C'est
incroyable. Oui, c'est ça. Alors, Nantes, est-ce que Nantes a fait le plus dur? Il y a une très belle série pour les Nantais. Il y a ce dernier match contre une équipe en roue libre. Pierre-Yves.
Oui, pour les Nantais, c'est assez simple. Soit ils perdent et ils sont barragistes, soit ils gagnent et ils sont sauvés. C'est en cas de nul où là, il faudra sortir les calculettes. Mais c'est vrai qu'ils ont fait peut-être le plus dur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Antoine Comboiré, lui, il cherche à garder son groupe évidemment très concerné et il remercie les adversaires. Et il avait remercié il y a 8 jours les Nîmois, je ne sais pas si vous en souvenez, parce que ils avaient maintenu la pression sur Nantes en gagnant 3-0 face à Metz. Donc c'était bien d'avoir une équipe qui continuait à mordre un petit peu les mollets. Et puis ce matin, il a remercié les Dijonais, pardon, qui la semaine dernière l'ont contre Nantes.
Ah, tu m'étonnes, ils peuvent les remercier. Ouais.
Bah, pas pour le score, mais parce que il considère qu'en deuxième période, il était content de voir son équipe en difficulté, histoire de pas se croire arriver. Donc,
je crois que toutes les équipes étaient contentes de jouer Dijon depuis le début de l'année. C'est bizarre,
certes,
non?
Certes. Non, mais Antoine Comboiré, il reste très concentré, ça c'est certain. C'est peut-être le plus concentré d'ailleurs. Quand on lui parle d'un exploit, il dit on verra dimanche. Il y a un
Le plus concentré. Pourquoi t'as senti des joueurs
Non, les joueurs sont concentrés aussi, mais lui vraiment.
Il est à bloc quoi.
Il est vraiment oui. Et puis je le trouve changé véritablement par rapport au Comboiré qu'on a connu par le passé. Il est vraiment zen, il est calme. C'est assez surprenant.
Et ça se voit, hein, Pierre. Ça se voit.
Ça se voit sur lui. Hein.
Ah, ben, ça se voit sur ce qu'il dégage et même ce qu'il a mis en place, parce que on pouvait émettre des doutes et moi j'étais le premier à en mettre quand il a été nommé à la place de Raymond Domenech, mais on est obligé de constater que il y a bien sûr le choc psychologique qui arrive à tout nouvel entraîneur, mais ça dure qu'un temps et en plus au début il a eu quelques difficultés quand même de focaliser son groupe sur un objectif très clair, c'est-à-dire le maintien ou
la place de barragiste.
La place de barragiste,
il a profité du bon travail de Domenech, c'est ça.
Mais franchement, redonner confiance autant aux joueurs offensifs, de devenir une équipe qui est difficile à jouer dans tous les cas, et rappelle-toi leur victoire au Parc des Princes aussi, hein, même si le PSG avait été très très moyen ce soir-là, je suis désolé, mais là on est obligé de constater que franchement, bravo Antoine, le boulot, et il mérite vraiment de finir en beauté avec une victoire pour sauver ce club historique.
C'est aussi un classement quand même un petit peu en trompe-l'œil parce qu'on plaisantait, mais je crois que lorsqu'Antoine est arrivé, le FC Nantes n'était pas barragiste.
Oui, c'est vrai.
J'aimerais que l'on fasse un calcul entre le nombre de points qu'il a pris au cours des matchs qu'il a dirigé, multiplié par 38 rencontres. Je pense que le FC Nantes n'en serait pas.
Jean-Michel
serait dans le haut du tableau.
Je vais te donner un petit calcul que j'avais fait, c'est que sur les matchs d'Antoine Comboiré, s'il y a victoire dimanche, il sera sur une moyenne de points de 1,71. Il n'y a qu'un entraîneur qui a fait mieux à Nantes depuis la remontée, c'est Conte Sao qui était à 1,74.
Ah oui,
ça veut dire que c'est une série pas, formidable.
Ah oui. Alors eux sont un peu plus tranquilles désormais. On l'a dit, c'est Bordeaux. Le classement doit apaiser tout le monde. Est-ce que l'ambiance est apaisée après les différents scénarios
derrière lui,
il nous a raconté, Nico?
Alors pas forcément, mais par contre j'ai pensé très très fort à vous, parce que ce matin Laurent Koscielny, il a dit qu'il fallait faire un bilan et qu'il fallait faire une réunion. Donc là je me suis dit
pas encore les choses.
Je me suis dit ça c'est pour Roten Régal, je vais ouvrir, c'est parfait pour ce soir pour le petit. Mais le climat est apaisé forcément parce que Koscielny l'a dit, on a que 1% de chance de descendre, ça a rassuré tout le monde. Ils ont bien vu que la semaine dernière toutes les équipes qui jouaient cette place de 18e ont gagné, et en plus ils se sont vraiment rassuré en gagnant 3-0 face à Lens. Donc sportivement oui ça va mieux, même s'ils l'ont dit, on n'a pas encore fait officiellement le boulot, donc il faut gagner. Et puis en plus il y a cet objectif peut-être d'aller chercher une 12e place, parce que si Bordeaux l'emporte et que Angers perd face à Lille, Bordeaux peut terminer 12e, ce qui serait un peu miraculeux vu la deuxième partie de saison. Par contre après voilà, Koscielny dans son bilan, il l'a dit, ça va mal sportivement, ça allait mal dans la relation staff joueur, ça allait mal parfois entre les joueurs, ça allait mal avec la direction, donc il va falloir bouger tout ça.
Comment il explique la relation staff joueur, pourquoi ça s'est passé comme ça?
Non, mais alors moi je peux te donner des explications. Déjà il y a eu des choses qui ont été très très mal vécues dans le vestiaire, notamment l'arrivée d'Atem Ben Arfa, on en a parlé plein de fois, c'est vrai que ça a été une vraie fracture. Ensuite derrière,
c'est vrai l'histoire que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux de la vidéo montrée aux attaquants des plus beaux gestes de Ben
complètement.
Arfa. Complètement. Gâté leur montre avant l'arrivée de Ben Arfa. Regardez le joueur qui arrive, regardez le cador.
En fait, il a convoqué ses attaquants. Atem Ben Arfa arrive, il sait qu'il va signer, il convoque ses attaquants, dont fait partie Jimmy Briand par exemple. Hein. Et il leur dit, les gars, Atem Ben Arfa, voilà, regardez, clac, 15 minutes d'Atem Ben Arfa. Bon, Jimmy Briand, autant vous dire qu'il l'a un peu mal pris, de Privel aussi, surtout qu'il connaissait Ben Arfa. Donc voilà, il y a eu cet épisode-là. Et puis, il y a eu des moments dans la saison où on n'a pas très bien compris ce que voulait mettre en place le staff. On a travaillé certains systèmes, on n'a pas joué comme ça. On s'est senti un peu trahi par certains cas. cadre, dans les choix de Gasset, dans ses déclarations en conférence de presse. Donc tu vois, Jérôme, et puis quand ça va mal sportivement, de toute manière.
Mais ce qui est dommage, c'est que moi, ce que je reproche à Koscielny et à d'autres, des joueurs d'expérience, c'est de ne pas avoir parlé avant ou de prendre les choses en main avant.
Ah, pour le coup, Koscielny l'a fait, Jérôme. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait un multiplex en février où il avait complètement allumé tout le monde. Il avait dit qu'il faut faire un grand ménage dans cet effectif-là. Ouais. Et il l'a redit ce matin. Pour le coup, lui, ça a été un des rares à essayer de faire bouger les choses, à prendre la parole et à essayer de bouger ses coéquipiers. Après, ce qui est bizarre avec Laurent Koscielny, c'est qu'on a l'impression, quand il parle, qu'il est plus dans la posture d'un directeur sportif que d'un joueur. Tu vois, on n'a pas l'impression qu'il est capitaine de cette équipe et qu'il est vraiment joueur. Il parle comme un dirigeant et comme un coach.
Étonnant, 10h26, les tambours sont arrêtés à peine chez Nico.
Oui, il tape fort le monsieur à ma gauche. Je vais lui dire.
On y va pour le deuxième tour des stades. On est sur le bas de tableau toujours avec Lorient, donc qui joue ce match très important face à Strasbourg avec des incertitudes importantes, Pierre-Yves.
Ben oui, ils seront peut-être un peu diminués, les Lorientais, parce que ils avaient déjà écourté leur séance jeudi matin. Enzo Lefebvre et Andrew Gravillon ne sont pas entraînés non plus aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Dos bloqué pour Enzo Lefebvre et puis le psoas pour Gravillon. Donc ça pourrait être un peu compliqué dans la composition de l'équipe, parce qu'en milieu de terrain, on sait qu'il y a Boigard qui est déjà sur le flanc. Christophe Pélissier va peut-être être obligé de se gratter un petit peu la tête.
Le match qui n'a quasiment aucun intérêt en termes d'enjeu, c'est Saint-Étienne-Dijon. Mais il y a quand même une info importante concernant Mathieu Debuchy, Edouard G.
Oui, Claude Puel nous a pas tout dit hier, hein, quand on était avec lui, et surtout toi, Jean-Louis et Captain. Nous avons convenu de ne pas prolonger le contrat. Il parlait donc de Kevin Monet-Paquet, le Bergalien, qui après 7 ans et 208 matchs avec les Verts, eh bien, ne poursuivra pas l'aventure. Et aussi le capitaine Mathieu Debuchy, 97 matchs, 12 buts. Il a toujours été un leader. Écoutez, un exemple de professionnalisme pour les plus jeunes dans les moments clés de la saison. Voilà ce qu'a dit Claude Puel à la conférence de presse aujourd'hui avec c'est lui qui l'a fait débuter à Lille, Claude Puel, et bien c'est avec lui qu'il termine du côté de Saint-Etienne, mais Debuchy sera forfait pour son dernier match. Et concernant Romain Amouma, il a une proposition de prolongation en main.
Très bien. Nice est quasiment en vacances, mais Nice joue un match important donc à Lyon, crucial dans la course à la Ligue des Champions. Est-ce que Nice va jouer son rôle d'arbitre, Clément?
Ah, ils ont eu l'occasion de le jouer déjà, ce rôle d'arbitre, face à Lille il y a quelques semaines. Ils avaient fait un non-match, pas le moindre tir. Ils avaient été très critiqués, accusés de fausser un peu la fin du championnat. Et la semaine suivante, ils avaient rebondi contre Brest. Alors face à Lyon, il y aura une flopée d'absents encore. Dante, Reine Adélaïde, Maolidane, Soki, Trouillet, Claude Maurice, qui s'est d'ailleurs fait opérer il y a peu avec succès du péroné et de la main. Double opération. Il y aura surtout une motivation supplémentaire, celle de remercier, de faire un joli cadeau à leur entraîneur Adrien Urcea, qui vivra son dernier match sur le banc de l'OGC Nice.
Très bien, puis on finit avec les infos compos à Bordeaux avant ce dernier match à Reims, Nico.
Et ben toujours pas de Kalou, toujours pas de Ben Arfa. On a une pensée pour Paul Bayes qui s'est fait les ligaments croisés, rupture du ligament la semaine dernière contre Lens. Il a joué 35 minutes avec un croisé pété, Paul Bayes contre Lens. Lui aussi il est sur le flanc, donc ça devrait être une équipe assez similaire à celle qui a joué la semaine dernière et battu Lens, avec du coup l'absence de Bayes et le possible retour de Koscielny en défense centrale.
Merci messieurs, Pierre Rigaud, Nico Paolo, Edouard G, Clément Brossard. Rendez-vous tout au long du week-end pour les infos journée. Et rendez-vous dimanche pour un multiplex exceptionnel sur RMC avec 10 matchs en direct. On va se régaler. Dans une seconde, on va en Espagne. Là aussi, un dénouement plein de suspense. Palermel va tout nous dire. A tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
19h34, toujours dans Roten Régal sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Allez, Jean-Louis, on continue. Maintenant, on va s'attaquer au multiplex européen.
Oui, vous pouvez aussi appeler au 32-16 pour vous inscrire pour le quiz. C'est dans un quart d'heure. Il y a également les directs du soir. On est toujours à Agen avec Nicolas Paolo Orsi pour le match en retard de la 21e journée du top 14. Quel est le score Agen-Union-Bordeaux-Bègles, Nico? Ça doit être la mi-temps. Pour qu'il soit pas là, qu'il n'y ait plus de tambour, c'est que ça doit être la mi-temps. C'est sûr? C'est sûr. Allez, c'est la mi-temps. Il reviendra tout à l'heure, Nico. Et puis, on sera également à Toulouse pour Toulouse-Grenoble, le barrage de Ligue 2. Le vainqueur affrontera donc le 18e de Ligue 1 dans un match aller-retour. On file en Espagne.
RMC Roten Régal.
Multiplex européen.
Fred Hermel est avec nous en Espagne. Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Tout va se jouer samedi à 18h.
Ah, ça fait du bien.
L'Atlético est à Valladolid. Le Real reçoit Villarreal. Il y a 2 points d'avance pour l'Atlético.
Alors on va expliquer les scénarios.
Vas-y. Hein,
comme ça tout le monde se comprend. Donc. Si l'Atlético, tout le monde comprendra. Si l'Atlético gagne à Valladolid, pas de doute, l'Atlético est champion. Si l'Atlético, alors dans tous les cas de figure, il faut que le Real gagne contre Villarreal pour pouvoir espérer hein, quelque chose. Donc on part du principe que le Real bat Villarreal. Si l'Atlético gagne à Valladolid, l'Atlético est champion. Si l'Atlético fait match nul à Valladolid, c'est le même nombre de points. Oui, sauf que c'est le Real qui est champion, puisque ce qui compte en Espagne, c'est le goal average particulier. Et le Real avait battu l'Atlético et ensuite avait fait match nul. C'est le Real qui serait champion. Et bien entendu, si l'Atlético perd Valladolid, c'est le Real qui est champion. L'Atlético a son destin entre ses mains. Grâce
Fred,
à qui...
est-ce qu'il y a un petit truc qui frotterait pas ton micro en même temps que tu nous parles? Je ne sais pas. C'est le...
Oh oui, tu
un
as tout à fait raison.
Ou quelque chose.
Non, pas la barbe, c'est simplement le fil du micro. Est-ce que ma voix est,
oui,
est plus belle maintenant?
Elle est claire.
Je vous prie de m'excuser.
Pas besoin de tout recommencer parce que là, on s'est endormi avec Jean-Michel.
Je commence à la radio, ça fait que 20 ans que je suis à RMC. Donc, tu vois, les micro-casques, je connais pas bien. Donc, l'Atlético a son destin entre les mains. Grâce à qui? Grâce à Luis Suarez, qui la semaine dernière, vous vous souvenez, a marqué à la 88e minute le but de la victoire contre Osasuna et a permis à l'Atlético de reprendre la main. Sincèrement. Ce serait une catastrophe si les Colchoneros n'étaient pas champions.
Ouais, ce serait fou. Ils jouent chez l'avant-dernier.
Même si Valladolid a besoin d'une victoire pour espérer, parce qu'il ne dépend pas de lui-même, rester en première division, il y a un enjeu pour Valladolid. Enfin, l'Atlético, s'ils ne peuvent pas gagner à Valladolid, c'est qu'il y a un problème. Mais, rappelez-vous ce qu'a dit un jour le président Vicente Calderón, qui avait donné son nom à l'ancien stade. L'Atlético... c'est le poupasse. Alors moi, je traduis ça par l'Atlético et le maudit football club. On sait, et ça, c'est dans la tête de beaucoup de monde à Madrid. Et il y a d'ailleurs le maire de Madrid, Martinez Almeida, qui a donné une interview à Marca et qui est un grand supporter de l'Atlético en disant « Je ne peux pas être optimiste, sinon je ne serai pas de l'Atlético ». Voilà, il y a toujours ce côté un peu loser de l'Atlético. Mais bon, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, on peut imaginer que l'Atlético va être champion.
Ouais, c'est difficile de. En plus, vu le scénario, c'est toujours pareil. Vu le scénario du match de ce week-end où ils étaient menés longtemps 1-0 et qui marque ce but de Suarez dans les dernières secondes. Je pense que ça donne. On l'a vu, l'état d'esprit. De toute façon, c'est une équipe et tu l'as souvent dit. En plus, ils ont un effectif qui parle plus que l'effectif du Real ou l'effectif de Barcelone. Je suis persuadé qu'ils sauront trouver l'énergie pour aller gagner ce dernier match et gagner la Liga. Du moins, j'ai du mal à imaginer un autre scénario. Quoi.
Question subsidiaire, mais l'importance du match, d'abord parce que le Real rencontre une bonne équipe.
Oui, le Real n'a pas gagné encore. Oui.
Enfin, Villarreal joue la Ligue Europa, la finale contre Manchester United mercredi soir.
Ouais.
Et Villarreal n'a plus rien à jouer en Liga, donc je pense qu'il va faire tourner Unai Emery. Hein.
D'accord.
Ça serait bizarre quand même à 3 jours d'une finale européenne.
Ouais, ouais. Il joue l'Europe quand même par le championnat.
Ouais, mais enfin. Ouais, mais l'Europe, t'as la Ligue des Champions si tu gagnes contre Manchester United mercredi. Hein.
D'accord, mais si tu perds et que t'as négligé ta dernière journée de championnat, t'as rien du tout.
Ouais. Mais ça sera pas l'équipe type, quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît incroyable.
Jean-Michel, tu voulais.
Non,
tu voulais juste dire que Real est un match compliqué.
Oui, enfin, mais s'il met l'équipe B de Villarreal, évidemment, ce sera un petit peu plus facile. Je comprends, mais c'est bon de le préciser.
Zidane qui ne pourra pas compter sur Hazard de nouveau. Hein. Il s'est blessé, c'est ça, Fred?
Voilà. C'est un symbole, en fait. Voilà. La saison se termine sur le symbole d'Hazard blessé. Il y a eu 52 matchs officiels au Real Madrid cette saison. Vous savez combien Hazard a manqué de matchs?
Beaucoup.
40.
30.
Ouais.
C'est un truc de fou.
Non, mais ce qui est
alors, plus que Neymar.
Après, c'est vrai que c'est terrible en termes de stats et tu viens de le dire, mais ce qui est le plus terrible pour lui, je suis désolé, autant tu peux lui trouver toutes les excuses du monde, mais moi il y a un truc qui est pas passé et à mon avis qui est pas passé. Alors moi ici j'appartiens pas au Real Madrid ou je suis pas supporter du Real Madrid, mais l'image qu'il a envoyée après l'élimination contre Chelsea, le sourire sur le terrain comme ça avec des anciens coéquipiers. Ah ouais, moi je suis désolé. Non mais quand t'es un compétiteur, quand t'as le statut, en plus il y a un statut qui est particulier. Mais même s'il avait pas ce statut-là, je suis désolé, attends d'être dans les vestiaires, de au moins prendre ta douche.
Oui, on a fait un procès, ouais, on a fait un procès dans Top of the Foot, et les avocats, moi j'étais l'assistant de maître Jean-Michel Larquet, qui avait très bien dit, je vais paraphraser mon idole Jean-Michel Larquet, quand il avait dit, c'était pas avant le match, c'était après le match. Et là, ça change tout. On est d'accord, Jean-Michel.
Mais comment ça change tout quand t'es un compétiteur d'avoir.
Après le match, c'est fini, c'est bon.
D'accord. Donc en fait, tu joues un match et puis l'émotion, tu t'en fous en fait. Donc quand tu perds, tu t'en fous.
Jean-Michel,
je savais pas que dès que le sifflet final.
Je crois que le débat est oublié. Je pense qu'on est sur la dernière journée du championnat de la Liga espagnole.
Bon, après, c'est une discussion, Jean-Michel. On peut aussi dévier s'il faut. Non, mais c'est pas grave.
Mais il est chafouin cette semaine.
Il n'a pas eu de refaire le débat.
Je ne suis pas chafouin. Je considère que c'était un procès pour cacher d'autres insuffisances.
On est d'accord.
Mais que de toute façon.
Ils ont pris hasard. C'est la tête de Turc, pour expliquer la
situation. Mais bien sûr, c'est une maladresse.
Bah, une de plus.
Une de plus. Mais si je tombe à bras raccourcis sur hasard, on va dire, mais ce vieux con, là, de 73 ans.
Pas du tout, on ne serait jamais fait mentir, ça.
Alors, ce vieux schnock, ce vieux réac de 73 ans ne comprend rien aux jeunes. Et si je lui tombe, si je
le vieil aigri encore,
on
je
dit
veux dire,
mais... le vieil aigri, il comprend rien aux jeunes. Bon, donc c'est compliqué de défendre dans ma position. Je suis un petit peu compliqué, mais je reste, comme j'ai des principes dans ma vie, je reste sur mon principe. Je pense que c'était une maladresse et que ça cachait d'autres insuffisances. Bon.
Alors, revenons juste au Real aussi sur un élément. Zidane a parlé de Benzema aussi, Fred.
Je lui ai posé la question. C'était la dernière conférence de presse d'avant-match de la saison. On peut dire, je l'affirme depuis des semaines et des semaines, la dernière conférence de presse d'avant-match Zidane au Real Madrid. Vous savez, toutes ces rumeurs qui disaient que Zidane est intervenu, etc. Moi, j'y ai pas cru une seule seconde pour le retour de Benzema 100 ans. Mm-hmm. Donc, je lui ai posé la question. Tu me permets de lancer la réponse de Zizou ?
Bien sûr.
Je sais pas s'il a un avis.
Non, pas la blague habituelle. Je lui ai posé la question en disant, voilà, qu'est-ce que tu penses du retour de Benzema en équipe de France? Et est-ce que tu as eu un rôle? Parce qu'il y a des gens qui disent ça en France. Réponse de Zinedine Zidane.
Non, j'ai eu aucun rôle sur le retour de Karim. Par contre, je suis ravi, justement, que Karim puisse retrouver l'équipe de France, parce qu'en plus, ça a été son souhait. Moi, je suis ravi pour lui parce que c'est ce que lui voulait. Et il a toujours tout fait pour ses prestations. En fait, bon, on va pas parler de ses prestations, de ce qu'il a fait cette année, mais juste que lui voulait retrouver l'équipe de France. Donc moi, je suis heureux pour lui, et j'espère simplement qu'on va le laisser tranquille. Enfin, c'est pas juste dire ça et se dire, en fait, on va voir maintenant, en fait, comme on a le meilleur joueur, se dire si on gagne le championnat d'Europe, c'est bien, et puis si on gagne pas le championnat d'Europe, ça sera parce que j'espère qu'on va pas aller dans ces trucs là j'espère qu'on va profiter de son football. Et point barre, voilà, c'est tout. Mais en tous les cas, je suis heureux pour lui.
Il a failli, Zidane, dire, j'espère que si on n'est pas champion d'Europe, on ne dira pas que c'est à cause du retour de Benzema.
Il a dit ce qu'il voulait dire.
C'est intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant ce que dit Zizou. Parce que c'est vrai que Benzema, tout le monde va le regarder pendant cet Euro, donc automatiquement, on va juger l'équipe de France à la lumière de ce qu'aura fait Benzema. L'habitude au Real Madrid.
Ça reste un joueur important, donc ça me paraît logique qu'on observe ses performances.
Fred, merci beaucoup. Bon week-end. On te retrouve tout au long du week-end, bien sûr.
Bon week-end.
Pour revenir sur cette dernière journée, tout de suite, on va à Toulouse. Jeannot Rességuier nous attend. Salut Jeannot.
Oh là là.
Salut tout le monde.
Salut Jeannot. Le ventre plat, le cassoulet. Le cassoulet, il l'a déjà mangé.
Il y a eu un cassoulet là?
C'est sûr.
Il fait un temps à manger un cassoulet, ça c'est clair.
On a eu un midi, Jeannot?
Non, soyons sérieux.
Bon allez,
Non, je te le dirai.
Pas midi, à 4h alors.
Non plus. Bonjour capitaine, ça va capitaine?
Tout va bien.
Bon,
tout va bien.
20h45.
C'était gigot haricot, c'était pas un cassoulet.
Bon, petit déj.
Toulouse Grenoble, donc c'est le
préparat. Parce que Jeannot, il faut savoir pour prévenir nos auditeurs quand même que Jeannot prend une collation aussi, comme les joueurs avant leur match.
J'espère, sinon il prend
une collation à 4h30.
Exactement. Cappuccino et petit biscuit.
Ce qui est étonnant, c'est que nous à collation, on prend jamais l'entrecôte de frites, mais lui oui. Mais bon, après chacun.
Bon, allez, laisse-le tranquille. Donc Toulouse-Grenoble ce soir 20h45. 25, le pré-barrage de Ligue 2. Donc le vainqueur va affronter le 18e de Ligue 1 en aller-retour, Jeannot.
Ouais, ce sera jeudi prochain pour le match aller chez le club de Ligue 2 et le match retour dimanche 30 mai à 18h chez le club de Ligue 1. Donc en attendant de savoir si ça sera Nantes, Lorient, Brest, Strasbourg, il faut d'abord que les deux clubs de Ligue 2 ce soir, c'est-à-dire le 3e Toulouse qui reçoit le 4e qui a battu déjà le Paris FC lors du pré-barrage 2-0, savoir qui le Toulouse de Grenoble va s'imposer ce soir sans assistance vidéo, avec possibilité de prolongation et d'une éventuelle séance de tir au but. Alors d'un côté il y a la meilleure attaque du championnat, 71 buts marqués, mais 42 buts encaissés, ça fait beaucoup, mais la fraîcheur retrouvée avec en plus un effectif au complet quasiment, puisque Gabriel Sen lui est suspendu, et pour cette raison là à Toulouse, Patrice Garand a décidé de prendre 20 joueurs et d'en faire un vrai commando. Donc 20 joueurs, 18 sur la feuille de match ce soir, pas de Gabriel Sen, pas de Diarra puisqu'il sera donc en tribune, et avec ces joueurs là si ça passe ce soir, il ira défier le club de Ligue 1. Pas de grosse surprise dans la compo d'équipe, toujours la défense à 3 avec Diakité donc à la place de Gabriel Sen, avec De Vast et Amiens le capitaine, Dupé dans les buts, le milieu de terrain avec Machado, Koné, Spirings, De Jagereux et Morera. Il y avait juste une incertitude devant, est-ce que c'est Ilé qui allait débuter avec son triplé notamment du côté de Dunkerque, ou bien Bayo avec Adli. Ce sera finalement Bayo, lui qui avait été très bon au match aller, au match retour contre Grenoble. On change pas beaucoup pour Grenoble, Philippe Insberger a modifié deux joueurs, un au milieu de terrain, c'est Belmonte qui va être titulaire à la place de Michel, et Semedo, buteur face au PSG, qui sera titulaire à la place de Diarra. Pour le reste, Monfray et Nestor en défense centrale, Demba et Monbris sur les côtés, Maubleu le gardien de but et capitaine, avec Piquel et Benet pour le trio du milieu de terrain, Ravé, Semedo et Anani pour donc l'attaque de Grenoble, pour essayer de rester sur la bonne dynamique des résultats, avec notamment l'envie pourquoi pas de surprendre, même si Philippe Insberger le précise, ces joueurs sont quand même beaucoup fatigués.
Merci Jeannot.
Merci Jeannot, bon match.
Pour le match, évidemment. Et on revient dans une seconde pour la fin de Rotten Régal. Allez, le vendredi, c'est donc le quiz.
Tout RMC en podcast. En podcast. Sur l'appli RMC.
Alors, tu te passionnes pour ces barrages ?
Ouais, c'est toujours passionnant les barrages. Je trouve que ça donne une excitation particulière. Ouais, c'est bien. Alors après, c'est un peu long là en Ligue 2. Hein.
C'est vrai que pré-barrage là,
Est-ce que
c'est vraiment indispensable ça ?
Oui. Écoute, je sais pas, c'est pour donner un championnat plus attrayant à partir de la cinquième place, mais bon.
Faudrait regarder si souvent le cinquième arrive déjà à passer le pré-barrage ou à aller affronter la Ligue 1.
Je pense que le cinquième, c'est depuis qu'ils ont repris, non? C'est jamais arrivé.
Si elle arrivait, tu gardes la hiérarchie.
Bah déjà, c'est dur parce que t'as deux matchs à l'extérieur. Pour le cinquième.
Bah oui.
Donc déjà à gagner les deux matchs, et après tu joues le barrage contre la Ligue 1 en match aller-retour, alors que le match retour est toujours sur le stade de la Ligue 1. C'est dur beaucoup.
Il y a qu'en rugby que le sixième peut être champion de France.
Et voilà, exactement.
Exactement. Ouais, c'est vrai, en plus c'est pas faux.
Ah oui, regarde le stade français, là, ils ont fait une saison catastrophique, ils peuvent être champions. Exactement. Allez, envoyez vos messages sur le hashtag RMC Live sur Direct Studio ou appelez-nous au 32-16 pour le quiz, c'est dans une seconde.